France Culture.
Talmudique. Le calendrier hébraïque vient d'ouvrir une nouvelle page, celle de l'année 5786, 5786e année après la création du monde, selon la tradition du rituel hébraïque. Une nouvelle page qui s'est ouverte par le nouvel an, Rosh Hashanah, mardi et mercredi dernier, fête suivie de celle de Kippour, qui aura lieu mercredi soir 1er octobre et le 2 toute la journée. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Delphine Horwiller. Delphine Horwiller, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Le temps liturgique dans lequel nous sommes entrés avec le nouvel an est dit en hébreu le temps des Yamim Noraim, que l'on traduit traditionnellement par le temps des jours redoutables, une expression qui résonne de manière particulièrement forte cette année, car ce sont des jours qui croisent des temps inquiets, des temps sombres, des temps où il fait étrangement nuit, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée dans votre sermon du soir de Rosh Hashanah. Comment pensez-vous plus précisément cette obscurité? De quoi cette étrange nuit est-elle le nom, Delphine Horwiller?
Merci de cette invitation. Effectivement, on entre dans ces Yamim Noraim. Vous parliez tout à l'heure d'une nouvelle page qui s'ouvre. Et c'est troublant parce que les jours redoutables, ils correspondent à peu près toujours à la rentrée scolaire, professionnelle, où on s'imagine qu'on va faire du passé table rase et tout effacer, avoir des cahiers tout propres et tout neufs. Et en fait, on sait bien que c'est pas possible. Et on sait bien, au moment où les fêtes arrivent, que précisément quand on ouvre nos cahiers, ils sont tout tachés, il y a des ratures, ils sont pas propres du tout. Et c'est ça qu'on nous invite à faire, à regarder tout ce qui est raturé, tout ce qui est loupé, tout ce qu'on pourrait corriger, c'est le sens de ces fêtes. J'ai pensé cette année, il y avait une synchronicité de date et de calendrier étrange, le soir de Rosh Hashanah, c'était l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le temps de Rosh Hashanah à un moment, ou d'un point de vue cosmique, on est à un moment, un temps où il y a très exactement autant de lumière que d'obscurité dans le monde. Le temps de jour et le temps de nuit étaient le même ce soir-là, ou cette journée-là. J'y ai beaucoup pensé, moi, cette année, en me disant qu'on est censé, au moment des fêtes, on se réunit en famille, trouver de la lumière autour de nous, se retrouver. Et en fait, il faisait incroyablement noir. Il fait noir. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous le ressentent. Il y a un morceau de la liturgie qui est chanté dans beaucoup de communautés, en tout cas dans la mienne, on ouvre les fêtes avec ce poème liturgique qui s'appelle Achot Ketana. C'est un poème liturgique, on répète à la fin de chaque couplet « Tachle shana vekil elotea » que l'année s'achève avec ses malédictions, « Tachel shana ufirchotea » et qu'elle commence cette année avec des bénédictions. Et je crois que jamais, jamais de ma vie ces mots n'avaient résonné autant pour moi cette année. On est comme entouré d'un sentiment de bien des malédictions, une difficulté à voir l'avenir et sa lumière et à la percevoir. Et pourtant, on est censé exactement essayer de le faire maintenant.
On est censé le faire, mais c'est extrêmement compliqué parce que, comme vous le disiez, par exemple, dans l'article de Tenoua que vous avez écrit en réaction à la déclaration de David Grossman à la Repubblica sur la guerre à Gaza, vous employez l'expression « avalanche de mots ». Qui est aussi peut-être une avalanche d'images. On pourrait parler pour les mots aussi de dévoiement, de mensonge, de sclérose dans la simplification extrême. Alors, peut-être faudrait-il parler d'une avalanche de mots incertains. Comment le rabbin attentif aux mots que vous êtes affronte cette réalité du délitement d'un langage qui obscurcit l'intelligibilité du monde plutôt qu'il ne la construit? Quelles sont les ressources de la tradition juive, de l'étude juive, pour combattre ce délitement? Et la personnalité juive publique qui intervient dans les médias peut-elle opposer à l'utilisation honteusement simplificatrice de certains journalistes d'autres pouvoirs du langage, Delphine Horwiller?
Je trouve que vous touchez là exactement pour moi à ce qui est la crise majeure de notre époque. En fait, on sait qu'on vit une période de crise, qu'on peut qualifier de bien des manières, des crises géopolitiques, géostratégiques et militaires et environnementales et sociales, et ça se décline à l'infini. Mais pour moi, il y a une crise majeure qu'on peine à nommer et pour cause, qui est que j'ai le sentiment qu'on vit un moment de crise linguistique. En fait, c'est comme si le langage s'était effondré. Les mots veulent plus rien dire. Ça m'arrive tout le temps, comme citoyenne, je dirais même comme amie, mère de famille, pas juste comme rabbin, d'ailleurs, d'avoir le sentiment que, dans des conversations, les gens ne me comprennent pas et je ne les comprends plus. Ils utilisent des mots sans savoir exactement, de mon point de vue, ce qu'ils veulent dire. En fait, on vous balance des mots comme des slogans, plus du tout comme une possibilité d'une conversation et d'un dialogue. Les mots deviennent des slogans. Ces mots, ils sont multiples, mais évidemment, on pense tous aux mêmes depuis maintenant un certain temps, on va dire même depuis plus de 2 ans, certains diraient même beaucoup plus. Des mots comme sioniste, antisioniste sont utilisés par des gens, soit pour se définir, soit pour calomnier un autre. Moi, j'ai pris l'habitude depuis un moment déjà, c'est ma méthode à moi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'interromps tout le temps les conversations. C'est-à-dire, quelqu'un me dit, me parle, utilise un mot, typiquement, voilà le mot antisioniste, j'interromps la conversation. Je dis à la personne, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu sais dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien souvent, je constate que la personne en face de moi n'est pas capable de répondre à cela, encore une fois, parce que c'est comme si les mots avaient perdu leur signifiant, qui n'étaient plus que des armes, que des outils. Et c'est très troublant pour moi, d'un point de vue rabbinique, cette fois-ci, c'est que je pense que les mots sont notre outil. On ne sait faire que ça, d'une certaine manière. La tradition juive considère et utilise même des mots presque militaires. On parle de cherev pipiot, on dit que finalement nos bouches et nos langues, notre langage est comme une arme, comme une épée. D'ailleurs, objectivement, les juifs dans l'histoire et les sages tout particulièrement n'avaient pas vraiment d'autre pouvoir que celui-là. En fait, le langage, ça a été pour les juifs l'arme de l'impuissance parce qu'on n'avait pas de pouvoir politique et pas de souveraineté et pas d'armée. On savait comment, avec les mots, créer un monde, défendre un monde, et parfois même faire du mal à l'autre. D'une manière.
Mais vous dites justement « cherev pipiot », c'est-à-dire, dans la traduction classique, une épée à double tranchant, c'est-à-dire peut-être que les mots ont toujours un double sens, une amphibologie, et justement, cette incertitude du sens est aussi une façon de rappeler à ceux qui utilisent le mot de manière sloganesque, on peut pas s'enfermer dans une seule signification, et qu'il y a toujours quelque chose de très délicat dans le langage.
Oui, d'autant plus quand effectivement on le réduit dans sa possibilité de dire, quand on assiste à un appauvrissement, qui est pas sans lien, c'est un peu tarte à la crème que de le dire, mais avec l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux créent une modalité de conversation qui est une modalité de clash, de buzz, où il faut tout à coup prendre à partie un tiers de la façon dont on va écraser l'autre, surtout pas développer une pensée de la nuance, surtout pas développer une pensée complexe, de préférence même écraser quiconque va incarner une pensée plus mesurée, une pensée plus complexe, avec un appauvrissement du langage. Je pense très souvent à un enseignement que j'ai reçu de vous, Marc-Alain, et je vous en suis immensément reconnaissante parmi tant de choses que vous m'avez apprises. Je me souviens un jour où vous avez fait ce jeu de mots, je ne sais pas d'ailleurs s'il était de vous, mais en tout cas c'est de vous que je l'ai appris, que réduire un mot à l'un de ses sens, c'est le réduire à l'un des sens. Et je trouve que cette phrase est incroyablement pertinente pour aujourd'hui, qu'on est entouré de gens qui réduisent le langage à l'un des sens.
Je me disais que dans votre sermon de Rosh Hashanah, il y avait quelque chose de très subtil que vous avez énoncé. Vous avez dit, les rabbins ont réussi ce tour de force à la fois de parler de politique et de ne pas en parler. Vous citez un texte très étonnant. Vous allez nous dire pourquoi. Et est-ce que vous pouvez nous en raconter l'histoire?
Oui, d'abord, je voudrais dire le contexte de pourquoi j'ai choisi de parler de ce texte à Rosh Hashanah. Évidemment, on le lit à Rosh Hashanah, mais j'ai précisé aux gens de ma synagogue que la semaine de Rosh Hashanah, j'ai reçu, et de mon point de vue c'est très emblématique, autant de messages de fidèles qui me disaient « Madame le rabbin, merci de ne pas parler de politique pendant les fêtes ». Et j'ai reçu autant, voire plus, de messages de fidèles qui me disaient « Madame le rabbin, merci d'en parler ». Et merci au contraire de ne pas éviter d'en parler en un temps où on a besoin de messages rabbiniques qui ont une portée politique au sens large du terme. Et donc j'ai fait un exercice un peu peut-être malhonnête, je ne sais pas. J'ai dit à mes fidèles, ceux qui fréquentaient ma synagogue, vous savez quoi, je vais faire semblant de ne pas en parler. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai fait ce que les rabbins ont toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire commenter la Torah ou la paracha ou l'extrait de la Torah qu'on lit. Et il se trouve qu'à Rosh Hashanah, nos sages, qui au jour de Rosh Hashanah auraient pu nous dire « Bon, c'est le début de l'année, lisez Bereshit, le commencement du monde » ou alors « Lisez le calendrier qui fait référence au moment où on sonne le shofar au 7e mois ». Enfin, il y avait plein de possibilités de lecture. Ils nous disent « Non, vous savez quoi, vous allez plutôt commencer par le chapitre 21 de la Genèse qui, a priori, n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre. C'est une histoire assez célèbre, en fait, mais l'histoire des, on va parler ça, des femmes d'Abraham. Abraham, c'est le héros des fêtes de Tishri, évidemment, on parle beaucoup de lui à Rosh Hashanah, on parlera encore de lui à Kippour, il est très présent dans nos textes, mais en fait, on lit ce jour-là l'histoire du conflit, de la rivalité entre la femme officielle, Sarah, et la concubine, Agar, qui a donné à Abraham un autre fils. Alors, il y a d'un côté Isaac, le fils de Sarah, qui tarde à naître, puisqu'elle est stérile une partie de sa vie, le couple est stérile. Et puis Ismaël, qui lui naît de sa relation avec cette concubine. Et c'est ce texte qu'on est obligé de lire à Rosh Hashanah. Alors, on pourrait se dire, c'est bizarre, est-ce que c'est pas une erreur? Pourquoi ils nous demandent ça, les sages? Mais quand on y réfléchit un tout petit peu, on voit l'ampleur du message politique de ce texte, je dirais à toute époque, mais particulièrement aujourd'hui, au soir de l'entrée dans notre fête, nous les Juifs, on va raconter l'histoire de l'autre.
L'histoire de l'autre, l'histoire aussi d'un conflit entre ces femmes rivales, vous le dites, qui a été entendu à travers l'histoire comme le conflit entre deux frères ou deux demi-frères, Isaac qui représente les Juifs et Ismaël qui représente les Arabes. C'est comme si les maîtres de la tradition voulaient que on réfléchisse à ce conflit et de manière très intéressante de votre part, puisque vous avez souligné, vous avez appuyé le fait que le nom de ces femmes ont un sens tout à fait particulier, Delphine Horviller.
Oui, je pense qu'on a tort de lire ces textes uniquement comme étant l'opposition entre les Juifs et les Arabes, nous et l'autre, ou des belligérants dans n'importe quel conflit. Je pense qu'il y a plus que cela dans le texte. En fait, Abraham est lié à deux femmes qui portent des noms très troublants, qu'on oublie parfois d'interpréter, d'analyser. Sarah, en hébreu moderne, d'ailleurs Sarah c'est une ministre en fait, le mot sar en hébreu c'est le ministère, mais au sens d'une certaine souveraineté ou d'un certain pouvoir politique exercé d'un point de vue légitime, la légitimité politique du pouvoir. C'est comme ça qu'elle s'appelle la femme d'Abraham. Et puis sa concubine, elle s'appelle Agar. Et Agar, faut vraiment faire exprès pour ne pas lire ces trois lettres, He, Gimel, Resh, qui apparaissent partout dans la Torah, sauf que partout ailleurs, on les prononce Ha, Ger, ce qui veut dire l'étranger. Et cette injonction revient 36 fois dans la Torah. Tu aimeras l'étranger, tu connais le cœur de l'étranger, tu as toi-même été un étranger. En fait, c'est toujours la figure de l'altérité. Donc, Abraham, il a deux femmes, de toute manière. Une qui s'appelle souveraineté légitime, c'est-à-dire bien en place sur un territoire, et l'autre qui s'appelle étrangère. Et celle qui est bien en place sur un territoire va percevoir que l'étrangère, Agar, l'étranger tout court, l'étrangeté et son fils constituent une menace, ce qui est d'ailleurs peut-être vrai dans cette histoire. Peut-être que Ismaël vraiment menace Isaac et que Sarah a des raisons de s'inquiéter, toujours est-il qu'elle le renvoie, elle les renvoie dans le désert, cette altérité vers une mort quasi certaine. Et effectivement, ce qui me trouble dans cette histoire, c'est que c'est comme deux visages de nous. Je veux dire, de nous individuellement, on est parfois dans une position légitime, parfois dans une position d'une forme d'altérité, mais je dirais aussi de nous collectivement. Les Juifs qui ont toujours aspiré à être Sarah, c'est-à-dire à être dans une forme de souveraineté tout à fait légitime et de sécurité dans l'histoire à travers les siècles, que ça leur plaise ou non, ont été Agar, pour le meilleur, mais je dirais surtout pour le pire, c'est-à-dire que nous avons été ceux que l'on renvoie dans le désert, que l'on exclut, que l'on envoie vers une mort quasi certaine. Et donc, cette tension entre Sarah et Agar, elle est tout le temps à l'œuvre dans l'histoire, et elle a aujourd'hui une résonance particulière, parce que le retour des Juifs sur leur terre, et l'entreprise sioniste, et l'installation d'une souveraineté juive en Israël, nous replace étrangement dans la position de Sarah, et donc s'ouvre à nouveau cette question de quand nous sommes à nouveau Sarah dans l'histoire, quel rapport avons-nous avec Agar ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la suite de l'histoire, puisque Agar, qui est dans le désert avec son fils Ishmael, un ange va arriver et va les sauver.
Oui, c'est d'ailleurs intéressant. Ça aussi, on le passe un peu sous silence, je trouve, quand on lit le texte, que finalement, Dieu s'adresse à cette femme très tôt dans le texte, bien avant de s'adresser à plein d'autres gens. En fait, il parle à l'étrangère et il intervient pour sauver cet enfant. Il y a plein de passages qui voudraient des interprétations minutieuses. Le fait que Agar voit son enfant qui va mourir, elle s'éloigne. On comprend pas trop dans le récit pourquoi elle, d'un point de vue maternel, elle peut pas voir cet enfant mourir et elle pleure. Et c'est à ce moment-là que voilà, l'ange de l'Éternel intervient, comme il interviendra finalement juste après pour sauver Isaac dans l'épisode de la Hakeda qu'on lit aussi à Rosh Hashanah.
De la ligature
seulement,
d'Isaac.
Voilà, oui. Pour le deuxième jour, pas le premier.
Oui.
Donc d'abord l'enfant de l'autre est sauvé et ensuite l'enfant chéri, Isaac, le sera au deuxième jour.
Le mot Sarah, Et le verbe Sahara, puisque c'est un verbe, veut dire effectivement souveraineté sur la vie, sur un territoire, etc. Mais ça a un autre sens que vous évoquez vous-même dans votre livre en tenue d'Ève, puisque le mot Sahara, le verbe Sahara a donné le mot Israël. Et dans la tradition, on dit « tu t'appelleras Israël, qui s'arrita, car tu as lutté, car tu as combattu », alors que ce verbe signifie « persévérer », persister. C'est ça le sens de ce verbe. L'autre sens de ce verbe, il y a à la fois la souveraineté et la persévérance. Et vous écrivez « Jacob blessé, boiteux, mais debout, il a lutté, mais surtout il a tenu bon ». C'est ça le verbe, Sarah, il a tenu bon. Il a insisté, il a résisté à la tentation de lâcher prise. Et c'est cette persistance qui lui vaut un nouveau nom, Israël. Et vous écrivez « pas celui qui lutte, mais celui qui ne renonce pas ». Même quand le combat semble perdu d'avance. La blessure n'est pas un échec, mais la preuve qu'on a survécu. Et le nom d'Israël, c'est le nom de ceux qui, malgré les coups, continuent à marcher. Les femmes connaissent cette lutte. Comment, Delphine Horwiller, à partir de cette autre lecture du verbe Sarah, interpréter l'opposition entre Sarah et Agar? Et on pourrait citer aussi Lévinas qui, dans « Difficile liberté », écrit « La lutte avec l'ange n'est pas un combat, c'est l'effort même de la relation, effort où l'être ne se contente pas de son identité, mais se met en question ce risque à l'altérité. »
Peut-être je commencerai par le dernier mot que vous avez prononcé, « altérité ». Voyons, on parlait tout à l'heure de la crise des mots, de la force des mots, de la puissance des mots. En français, c'est mon verbe préféré, on a chacun des mots qu'on adore. Moi, mon verbe préféré, c'est « altérer ». Précisément pour le double sens qu'il comporte, que altérer, c'est, on l'entend comme user ou abîmer. Il contient aussi l'altérité, l'autre, c'est-à-dire la conscience que ce qui change en nous, ce qui s'altère d'une certaine manière, est dû à la rencontre avec l'autre. Avoir la conscience que quand on rencontre un autre, quelque chose en nous ne sera plus jamais le même. Et en fait, c'est très exactement l'histoire de Jacob qui devient Israël. Il devient Israël, il change. Et ce changement le renforce tout en le vulnérabilisant, tout en l'abîmant. C'est-à-dire qu'il devient plus fort. Israël, c'est aussi la capacité yachar, c'est aussi notre racine d'Israël à être droit. Mais paradoxalement, Israël est Israël quand il boite, c'est-à-dire quand il ne sera plus jamais capable de se tenir droit, d'être dans une verticalité parfaite et dans un équilibre. Et donc la force d'Israël, à mon sens, c'est sa capacité à prendre en compte sa vulnérabilité. De ce point de vue-là, c'est quelque chose de très féminin, pardon, je le genre un peu, mais d'une certaine manière, Israël, c'est le contraire d'une modalité de mâle alpha, de quelqu'un qui se sentirait très fort ou invincible. Au contraire, tous les héros du peuple d'Israël sont des héros qui vont devoir gérer leur vulnérabilité, leur cassure, leur brisure. Jacob, évidemment, boite. Isaac est aveugle une partie de sa vie. Abraham est stérile avec sa femme Sarah une partie de sa vie. Moïse bégaye. En fait, c'est troublant de voir que chacun de ces héros est un peu cassé. Et il ne devient pas ce qu'il devient malgré sa cassure, mais grâce à elle. Et de ce point de vue-là, les héroïnes de nos textes, qui pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs luttent avec la stérilité, c'est le cas pratiquement de toutes les héroïnes dont on a parlé voilà, pendant ces fêtes de Rosh Hashanah, que ce soit Anna qui attend la naissance de Samuel, et Sarah qui attend son fils Isaac, ou Rachel qui peine à donner naissance à des enfants, on fait tout le temps référence à des femmes qui doivent vivre avec le deuil, l'incomplétude, une forme de stérilité, une forme d'altération qui n'est pas sans lien avec l'altérité. Et je crois que tout ça, c'est un message qu'il nous faut méditer. Et à nouveau, pardon de remettre un élan un peu plus politique aussi dans mon discours, mais je trouve que c'est une question incroyablement politique. Nous vivons dans un temps où peut-être plus que jamais ces dernières décennies, il y a autour de nous une obsession de la force, de la puissance. On le voit, beaucoup de leaders mettre en avant l'indubitable de leur certitude, des pouvoirs militaires politiques incontestés. Et je trouve que c'est pas évident de réconcilier cet élan-là avec le souffle d'Israël. Thank you.
Cette très belle composition de Shlomo Carlebach, d'un passage liturgique très important, chanté ici admirablement par l'ensemble Yama, nous a fait entendre le son du shofar et nous fait entrer de plein pied dans l'univers des jours redoutables et de Kippour, jour du grand pardon, jour de jeûne et de prière, où les fidèles demandent à Dieu de leur pardonner pour leurs fautes qu'ils ont commises, à commencer par le prochain, disent les textes, condition première d'un Dieu qui puisse être à l'écoute de leurs demandes. Je pense au texte d'Isaïe, qui est lu ce jour-là, qui est une critique d'un culte sans justice, d'une orthopraxie sans éthique, que résume formidablement Lévinas dans Éthique infinie, reprenant une analyse du traité talmudique Yoma, consacré à la fête de Kippour. Lévinas écrit « La relation avec autrui précède la relation avec Dieu, l'autre est le lieu même où Dieu se révèle. » Delphine Horviller.
C'est le texte le plus, à mon sens, incroyable de Kippour, cette matinée où la Haftara, le passage prophétique d'Isaïe, est lu. Tous les ans, je me dis que c'est le moment où on commence à avoir faim dans nos synagogues et on jeûne et beaucoup de gens ont tendance à vivre cette journée malheureusement comme une sorte de performance. Il faut tenir bon jusqu'au bout de la journée. Et tout à coup surgit ce texte d'Isaïe qui est quand même le summum de la chutzpah. J'ai pas d'autre mot, c'est un culot incroyable que de faire lire dans des synagogues ce texte d'Isaïe où l'Éternel dit par la voix du prophète « Vous croyez que je vous ai demandé ça ? Vous croyez que ça m'intéresse, votre jeûne là ? C'est pas du tout ce que j'attends de vous. Moi j'attends de vous que vous puissiez... » Et donc il y a une parole que on appellerait en hébreu de tochacha, c'est-à-dire de critique incroyablement forte à l'égard des fidèles, qui est donc un culot fou de demander aux gens de lire ça au matin de Kippour. Mais il n'y a rien de plus fort que cette conscience que l'éthique, le souci de l'autre, ce souci de l'altérité, prime sur le rite. C'est d'autant plus intéressant que juste avant, on vient de lire ce qui se passait au temple, que ce que les kohanim, les grands prêtres faisaient geste par geste, la façon dont ils sacrifiaient les animaux. Donc on pourrait s'imaginer que ce jour-là, tout est centré sur le rite, et tout à coup, Isaïe arrive et il met un espèce de grand coup de pied dans la fourmilière pour dire stop, si vous imaginez que c'est ça le cœur de votre religiosité, purement une pratique, une orthopraxie rituelle, vous êtes à côté de la plaque. Et cet équilibre incroyable entre la parole du Kohen, c'est-à-dire le rite, et la parole du prophète, c'est-à-dire l'éthique, est vécu ce matin de Kippour comme presque jamais, en tout cas de façon incroyablement puissante.
C'est peut-être là le sens, et on l'oublie, mais vous l'avez beaucoup travaillé, beaucoup écrit, du « tu aimeras ton prochain comme toi-même », que l'on sort de son contexte, que l'on sort de son paysage, puisque comme dit encore Lévinas, lire un verset à moitié, sans lire ce qu'il y a avant et sans lire ce qu'il y a après, c'est passer à côté du sens de ce verset. Mmh. Alors ce qu'on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », en fait, dans ce verset du Lévitique, il y a quelque chose qui précède avant, quelque chose qui suit, on appelle cela le paysage, vous l'avez analysé et c'est absolument remarquablement important pour notre temps, puisqu'il s'agit d'être capable de faire des reproches quand c'est nécessaire.
Oui, et précisément au nom de l'amour, parce qu'il faut se souvenir que ce passage dans le Lévitique auquel vous faites référence, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc la notion d'amour du prochain, intervient dans un contexte, et j'aime beaucoup cette idée de paysage, où on vient de dire au verset précédent « Ochéach tochéach et amitecha velotisa alavret » « Tu sauras énoncer des critiques et des reproches à ton prochain pour ne pas porter sa faute, et alors... » tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans cet ordre-là que ça vient. Et en fait, l'amour du prochain n'est pas inconditionnel dans la
tradition
juive.
C'est pas un impératif.
Non,
c'est une conséquence.
C'est une conséquence. Et c'est presque l'inverse de ce que le sens populaire y greffe. Une espèce d'amour inconditionnel, quoi qu'il fasse. Pas du tout. En fait, tu dois d'abord pouvoir lui énoncer des reproches. Et alors, c'est comme ça que se matérialise l'amour du prochain. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé ce verset. Certains d'ailleurs me l'ont reproché ces derniers mois, comme si j'ai reçu des critiques, comme si c'était C'était d'ailleurs troublant pour moi. Des gens me disaient de l'intérieur du monde juif, faire référence à l'amour du prochain, c'est un truc non juif. C'est fou comme certains ont intégré ce verset comme
parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament.
Comme si les Juifs n'avaient plus de lien avec cette notion-là, alors que nos sages ne cessent de nous le dire. Il y a une autre phrase très forte pour moi dans le Talmud quand on nous dit que Derech Eretz Kadma la Torah, pas facile à traduire cette phrase, mais une sorte de une façon d'être au monde, une éthique quotidienne vient avant la Torah. Disent nos sages. C'est-à-dire qu'avant toute Torah et Halakha, avant toute réflexion sur la loi juive, il faut d'abord se poser la question de comment on se comporte vis-à-vis de notre prochain. Et peut-être que certains parmi nous l'ont oublié aujourd'hui, qu'en fait il y a une telle insistance sur le rite que la voix d'Isaïe ne résonne plus, ou en tout cas on se bouche les oreilles quand elle résonne. Mais d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, il y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois que, pardon pour le dire un peu vulgairement, mais je crois que les voix des prophètes, la voix prophétique, a toujours embêté tout le monde. En fait, on n'a jamais voulu l'entendre. On a toujours tout fait pour se boucher les oreilles à travers l'histoire. C'est plus facile d'écouter la voix du rite et pas d'écouter cette voix qui vient nous mettre un miroir face au visage et qui dit « attention, peut-être que nous nous sommes égarés ».
Je pensais, quand on évoque maintenant cette question de l'action, du rite et de l'éthique, je pensais à Paul Ricoeur qui faisait la distinction entre éthique et morale. On parle beaucoup d'éthique, mais il y a un autre mot qui est très proche. Il fait la distinction entre éthique et morale de la façon suivante. Il dit « l'éthique est le but d'une action et la morale, ce sont les outils et les chemins qui permettent de réaliser le but que l'on s'est donné ». En lisant le très beau livre d'Edmond Flegg, Salomon raconté par les sages, j'ai compris que Salomon, dans sa sagesse, disait en permanence « mon éthique, c'est la paix, ma morale, c'est l'étude ». Que choisiriez-vous d'enseigner, Delphine Horviller, pour arriver à ce but qui est la paix et qui nous préoccupe depuis toujours et particulièrement dans les temps que nous traversons ?
Eh ben, je reviendrai tout simplement à Isaïe, à l'Isaïe de Yom Kippour, parce que on a parlé du Isaïe qui est capable d'énoncer une torracha, une critique. Mais Isaïe, comme tous les autres prophètes, il s'arrête jamais là. Et il énonce toujours ensuite ce qu'on appelle en hébreu une nechama, c'est-à-dire une consolation. Les prophètes, ils font toujours ça. Tous les prophètes, finalement, sont dans ce subtil équilibre entre la torracha et la nechama, c'est-à-dire la nécessité, l'injonction. Même, ils sentent eux-mêmes qu'ils n'ont pas le choix. La plupart du temps, Jérémie dit qu'il est tiré par les cheveux. Il doit parler. Il n'a pas le choix. Il parle, il critique son peuple. Mais juste après, il offre une nechama.
Une consolation.
Il console son peuple et surtout, il leur dit « peut-être que vous vous égarez, mais je ne vais pas vous abandonner. Et si vous tombez, je serai à vos côtés. » Et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler aujourd'hui parce qu'en réalité, c'est mon dilemme rabbinique d'aujourd'hui. Et je crois que c'est le dilemme de beaucoup de rabbins et de beaucoup de leaders dans le monde juif aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut simultanément être ces deux voix ? On n'est pas des prophètes, évidemment. La voix prophétique a disparu, selon la légende, depuis la destruction du temple, ou alors elle est donnée aux enfants et aux fous, selon un célèbre midrash. Mais je pense que la voix prophétique doit parler à travers nous, et souvent à travers la voix rabbinique. Et je trouve ça très compliqué, en tant que leader du monde juif aujourd'hui, de concilier l'énoncé d'une critique nécessaire, dont je pense que notre peuple a besoin aujourd'hui, mais rester une présence consolatrice, rester à ses côtés dans ces moments si difficiles, si obscurs, si douloureux. Cet équilibre est complexe et je crois que c'est cette question que chacun d'entre nous doit se poser aujourd'hui, comment il parvient, forcément maladroitement, à tenir ces deux pôles de la voix du Navi. En fait, le prophète, le Navi, moi je pense souvent à ça que Navi, en hébreu, ça s'écrit de trois lettres, Nun, Bet, Aleph, qui sont l'inverse du mot Even, Aleph, Bet, Nun, qui veut dire une pierre, un caillou. Et pour moi, la voix prophétique, c'est celle qui nous aide, je sais pas si c'est un mot français, à nous dépétrifier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se solidifie, qui devient comme une pierre sèche et solide, et nos cœurs sont durs comme de la pierre, comme celui de Pharaon en Égypte. On n'arrive plus à casser nos certitudes, et tout à coup, quelqu'un arrive, et par une voix de la prophétie, va réduire la pierre en poussière, ou plutôt remettre de la vie, dépétrifier le monde pour que, à nouveau, il y ait du souffle.
Rabbin Delphine Horviller, vous m'avez dit en antenne que vous aimez imiter le son du chauffard. Vous pouvez nous faire une petite imitation?
Mais c'est quelque chose que je fais souvent pour expliquer le sens de l'enchaînement des sonneries du chauffard. Je dis qu'au début, il y a quelque chose de stable dans nos vies. Et puis, il va falloir accepter d'être un peu cassé, comme chez Varim, les premiers sons du chauffard, et puis peut-être réduit en miettes, complètement brisé, comme Terroir, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité dans notre existence. Et c'est vrai que c'est très bien raconté par ces sons qui font...
Merci Delphine Horviller pour cette belle et riche conversation. Je renvoie les auditeurs au site de votre revue Tenois sur lequel ils pourront trouver de nombreuses réflexions et de nombreux textes de vous et d'autres aussi tout aussi passionnants. Je rappelle aussi le titre de votre dernier livre, ça s'écrit E-U-H, trois petits points, Comment parler de la mort aux enfants. Merci encore Delphine Horviller.
Merci Marc-Alain Wacknin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Grégory Wallon, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Kol Touv, Le Hitraot, au revoir, bon dimanche à tous, bon Kippour et à la semaine prochaine.